avons commencé la dernière fois à essayer de préciser ce qu'est la personne humaine, après avoir rappelé quelques grandes positions. La position classique, celle de saint Thomas, et puis les positions modernes. Après avoir essayé de comprendre comment, de fait, dans la philosophie grecque, tout a été centré sur le problème de l'âme. Ce sont les stoïciens qui, les premiers, ont commencé le problème de la personne. Les théologiens ont assumé les deux perspectives, personne et âme. Et les modernes, les contemporains, disons, ont de fait abandonné le problème de l'âme pour ne regarder plus que le problème de la personne. C'est très curieux, et ce point de vue-là, c'est très intéressant. Parce que je crois qu'on est sur une ligne de crête, au point de vue philosophique. C'est toujours intéressant de regarder quel est le point de départ de la philosophie. Et ce point de départ, il est multiple. Déjà dans la philosophie grecque, il ne faut pas croire qu'il y a qu'un seul départ dans la philosophie grecque. Ou c'est l'inspiration, ou c'est l'expérience, intérieure ou extérieure. Donc, on peut regarder le point de départ, on peut regarder le terme, et on peut regarder la crête. C'est comme ça que je définirais. Je crois qu'il y a trois grandes topics historiques à avoir quand il s'agit de comprendre un peu notre philosophie occidentale. Parce qu'on est dedans, il faut la comprendre. Et il faut essayer de comprendre qu'à la fois, la philosophie traite toujours des mêmes problèmes. Ça fait partie de la philosophie. Et que, de fait, elle les traite toujours de façon différente. Il y a de grandes modalités différentes. Mais je crois que les trois grands problèmes, c'est bien, ces trois problèmes, ou ces quatre, si vous voulez. Le problème du point de départ, à partir de... Et c'est important, le départ. Quel est le point de départ de la philosophie? Encore une fois, ils sont divers, mais on doit opter. Et on doit opter comme un citoyen conscient au plan philosophique. Conscient qui sait ce qu'il fait. Pourquoi nous partons de l'expérience et non pas de l'inspiration? Il faut quand même petit à petit arriver à vous faire là-dessus un choix. Je vous laisse libre. Je vous ai dit le mien, mais je vous êtes libre. Et je vous ai dit pourquoi je prenais ce choix. L'expérience impliquant nos sens externes. Donc l'expérience au sens très très fort. Et puis il y a l'expérience interne. Ceux qui sont augustiniens, bonaventuriens, ils sont l'expérience interne. Puis il y a l'inspiration. Artistique. Et puis avoir l'inspiration plus profonde à la manière de Parménide. Bon, là, il y a une grande topique et il y a un choix à faire. Puis, deuxièmement, essayer de comprendre quelle est la ligne de crête, c'est-à-dire ce que les philosophes ont dit de l'absolu. Quel est leur absolu? Je crois qu'on pourrait poser la question comme ça. Jusqu'où la philosophie peut-elle les mener? Parce que quelquefois l'absolu c'est négatif, hein, l'agnosticisme. On ne peut rien dire de certain, on est dans le relatif, et le relatif absolu. Mais déjà dire le relatif absolu, c'est l'absolu dans le relatif. Donc on ne peut même pas dire l'absolu du relatif, on doit dire on cherche, on cherche, on cherche. Et quand Merleau-Ponty dit que le propre de la philosophie c'est de chercher, le premier Merleau-Ponty, puisque le second, il a découvert l'être sauvage, et alors ça lui donne quelque chose de plus absolu. Mais quand il dit, le propre du philosophe, c'est de chercher, là, il y a une ligne de crête très intéressante. Je crois qu'on peut préciser tout ce que les philosophes peuvent dire au terme. Là, si je suis là, objectif, je suis bien obligé de reconnaître que le philosophe qui a été le plus loin dans cet ordre de la recherche, c'est quand même Aristote. Je crois. J'aimerais savoir un philosophe qui était plus loin. Quand Aristote dit que l'être premier, c'est l'acte pur, et c'est la noésis noéseos, la pensée de la pensée, la connaissance de la connaissance, la contemplation de la contemplation. C'est ça qu'il veut dire. Et qu'il est le premier aimable. Je crois qu'on n'a pas été plus loin. Même saint Thomas, en théologien, saint Thomas a été plus loin, c'est sûr, mais pas en philosophie. Saint Thomas n'a pas été plus loin en philosophie. Il reconnaît là la grande, grande intuition. Alors en théologien, il va plus loin parce qu'il a la foi. Et qu'on peut dire que le sommet du philosophe est le marchepied du croyant. C'est vrai, d'une certaine manière, puisque préambula fidei. Et puis la foi repart avec un nouvel élan. Puis alors, entre ces deux extrêmes, je crois qu'il y a ce métaxu extraordinaire qui est le problème de l'âme spirituelle. Pour les Grecs, jusqu'à Aristote. C'est très curieux qu'Aristote a mûri le problème de l'âme d'une façon très étonnante. Mais avant lui, c'est Platon. Et avant Platon, c'est l'Inde, c'est pas les Grecs. C'est un problème qui provient de l'Inde et qui a été assumé par Platon et par Aristote. Le problème de l'âme et de l'âme spirituelle. Le problème de la personne, Aristote n'en parle pas. Et il apparaît avec les stoïciens. Alors, les stoïciens ne parlent plus de l'âme spirituelle. Il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps pour les stoïciens. Il n'y a plus que l'interrogation du pose, du comment, de l'être concret. Et c'est cette considération de l'être concret qui aboutit à la personne. Autrement dit, l'absolu dans l'ordre du pose, c'est la personne. Et l'absolu dans l'ordre du ti esti, c'est l'âme spirituelle. C'est très curieux. Je crois qu'on peut dire ça si on est attentif à ce que les philosophes ont dit. Vous voyez, si j'interroge, qu'est-ce que c'est la recherche des causes, la cause la plus noble que je saisis au plan philosophique, la cause la plus noble et la plus immédiate, c'est l'âme spirituelle. Donc le sommet du tiesti, c'est l'âme spirituelle, l'âme humaine spirituelle. L'âme humaine qui a l'esprit. Et le sommet du pos, c'est-à-dire du comment, l'interrogation du comment, qui devient primordial chez les stoïciens, c'est la personne. Mais c'est curieux et c'est, je crois, très intéressant. Parce que ça fait bien comprendre comment, de fait, il y a peut-être ces deux voies d'accès très différentes pour remonter jusqu'à l'être premier. Puisqu'on part de l'absolu, de la cause, l'âme ou l'absolu de l'existant. Et c'est peut-être les deux ensemble qui nous donneraient une voie très originale et très intéressante à voir. J'espère que vous voyez bien. Petit topic, c'est important, parce que maintenant nous essayons d'entrer dans le problème de la personne. Alors, ce qui est très curieux, c'est que la philosophie moderne et contemporaine, moderne, elle a encore gardé le problème de l'âme. Le problème de l'âme existe chez Descartes. Le problème de la personne existe chez Descartes. Mais arrivé à un moment, le problème de l'âme a disparu. Ce serait très intéressant de bien préciser le problème du naufrage de l'âme. L'âme disparaît. Les philosophes ne veulent plus en parler. Ça, il faut bien le reconnaître, c'est la réaction spontanée d'une quantité de philosophes d'aujourd'hui. Il ne parle plus que de la personne. Alors, il faut réfléchir pourquoi cette espèce de j'allais dire presque de, c'est pas de, une opposition, mais a priori, parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Une opposition a priori contre l'âme spirituelle. Ils ne veulent plus parler que de la personne. On le comprend dans la mesure où la philosophie n'analyse plus. Dans la mesure où il n'y a plus d'analyse. On comprend très bien, parce que la personne, d'une certaine manière, refuse l'analyse. C'est un tout. C'est un comment. Le comment refuse l'analyse. On peut découvrir des lois, mais on n'a plus de cause et de principe. Donc il n'y a plus d'analyse. Au sens strict, une analyse qui est plutôt une espèce de dialectique, une espèce de dans l'ordre du comment. On est dans l'ordre dialectique. Tandis que dans l'ordre de la recherche des causes et des principes, quand il n'y a plus ça, je crois qu'on ne peut plus découvrir l'âme. Alors on la rejette comme une inconnue, comme une vieille dualité. Entre âme et corps qu'on doit rejeter. Vous voyez, c'est toujours très symptomatique de voir ça dans les applications. Je vous avais déjà dit que j'avais noté en Suisse, à Sion, des feuilles catéchétiques. Oh, c'est déjà vieux. Hein. Ça date d'il y a au moins 30 ans. En disant, ne parlons surtout plus aux enfants de la distinction de l'âme et du corps. C'est une vieille distinction grecque qui ne signifie plus rien du tout. Alors qu'il ne te disait pas, ne parlons que de la personne. Il n'avait pas fait sa synthèse complète. Mais plus parler de l'âme et du corps. Alors, c'est très significatif. On n'expliquait pas pourquoi, du reste. On disait simplement que c'est une vieille distinction périmée dont on ne devait plus parler. J'avoue que ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant, tiens, d'où ça vient ça? Alors, la première chose que j'ai vue, c'est l'erreur, c'est de dire que la distinction de l'âme et du corps est grecque. Elle n'est pas grecque, elle vient de l'Inde. Alors ça c'est très, je voulais toujours dire. Quand on peut voir que ça vient des traditions de l'Inde, tout le monde est respectueux. Tandis que la Grèce, non. Quand ils allaient, c'est l'Inde, il faut qu'on dise que c'est l'Inde, tout le monde. Oh, c'est très bien, c'est magnifique, alors on veut retrouver. Je crois que c'est apologétiquement, vous voyez, c'est une grande arme. Apologétiquement, prenez bien la distinction de l'âme et du corps dans les traditions religieuses de l'Inde. Comprenez bien que la Grèce, dans sa tradition philosophique, non, la distinction de l'âme et du corps est propre à Platon et à Aristote, donc peut-être à Socrate. Quoique Socrate connaît tout toi-même, on ne voit pas très bien la distinction de l'âme et du corps. Mais elle est propre à Platon, et elle est propre à Aristote. Or, c'est Platon et Aristote qui ont joué un très grand rôle dans toute la théologie chrétienne. Et c'est pour ça qu'elle revient dans la théologie chrétienne. Et ce n'est que récemment que les théologiens la refusent et veulent la remplacer par le problème de la personne. Or, il faut bien montrer que c'est deux problèmes différents. Vous ne pourrez jamais remplacer le problème de la recherche de l'âme par le problème de la personne, ce serait vouloir faire comme le positivisme. Auguste Comte, pour ne pas le citer, qui dit qu'il ne faut plus rechercher les pourquoi, qu'il ne faut plus rechercher les causes, qu'il ne faut plus rechercher que le comment. Auguste Comte a suffisamment de naïveté pour le dire clairement. Alors c'est intéressant de voir que c'est dit clairement. Et quand on veut supprimer le problème de l'âme pour ne plus regarder que le problème de la personne, on est dans le positivisme, sans le savoir. C'est du positivisme, ça. Au point de vue philosophique. Parce que ce n'est plus recherché que le comment. Et on n'accepte plus la distinction de l'âme et du corps. Cette distinction de l'âme et du corps a pénétré dans les livres sacrés, pas seulement dans l'Inde, mais à partir de toute l'influence grecque. Et d'une certaine manière, elle est présente dans l'Évangile. Ça, on ne peut pas nier. Je me souviens que le père Dreyfus, on avait beaucoup discuté la question, et le père Dreyfus était tout à fait d'accord que, de fait, la distinction de l'âme et du corps est présente dans l'Évangile. On ne peut pas la nier. Alors, il y a d'autres distinctions, mais cette distinction-là est présente. La distinction du pneuma, de l'esprit. Quel est le lien entre le pneuma et le psyché? Ça, c'est très difficile à bien préciser. C'est très vrai. Il y a pneuma, psyché. Mais il y a quand même psyché et pneuma, ce qui prouve qu'il y a distinction entre l'âme et puis l'esprit. Et on ne dit pas le lien qui existe entre les deux. Ça, c'est les théologiens qui doivent préciser ça. Puisque l'inspiration ne nous dit pas tout, la révélation ne nous dit pas tout. Elle laisse le soin de comprendre. Ce que je crois, si nous voulons comprendre une philosophie réaliste qui va jusqu'au bout, du réalisme. On ne peut pas rejeter la distinction de l'âme et du corps. Et on doit chercher à comprendre le problème de la personne. Avec le problème de l'âme et du corps, on tient toute la grande tradition classique qui n'est pas périmée. Et elle a de l'âge, que voulez-vous? Elle n'en peut rien. Si les gens ont été intelligents, ont découvert la distinction de l'âme et du corps, ben, tant mieux. Et soyons heureux que cette distinction est une distinction importante qui nous fait comprendre ce que c'est que l'homme, cet animal particulier qui est vivant et qui par moments est intelligent. De temps en temps, une petite flamme. De temps en temps, il y a quelque chose qui brille en lui. Pas toujours, mais de temps en temps. Et puis, il y a le problème de la personne. Et le problème de la personne est très ancien. Il date des stoïciens. Il a été repris par les théologiens. Et je crois qu'on peut dire que le problème de la personne joue un rôle très important dans saint Thomas. Mais les modernes le reprennent. Alors, à ce point de vue-là, on est proche des modernes. En gros, ce que nous avions vu, il ne faut pas l'oublier, chez les modernes, les contemporains, disons plutôt, chez nos contemporains, on fera facilement cette division entre théologie morale de la nature. Théologie morale de la personne. Alors, quand on dit que les derniers écrits du Saint-Père, ou de Rome plus exactement, de la commission de la foi, relèvent d'une ancienne morale, c'est la morale de la nature qu'on veut dire. Alors qu'aujourd'hui, on voudrait élaborer une théologie morale de la personne. Cette distinction à l'intérieur de la théologie est relativement récente, mais elle est le gros problème de tout professeur de théologie morale. Alors, je crois qu'il faut refuser catégoriquement cette division. Montrer que cette division est une erreur. Toute théologie morale ne peut être qu'une théologie morale de la personne, mais la personne assume la nature. Et pour bien le montrer, il faut qu'au plan philosophique, on comprenne que le problème de l'âme n'est pas un problème périmé, et que ce problème demeure. Et qu'on ne peut pas analyser profondément la distinction de l'âme et du corps. Je dis distinction, pas séparation, mais distinction réelle de l'âme et du corps. Et que, concrètement, la personne humaine, dans son exister, implique le problème de la personne. On est tout à fait d'accord. Il faut joindre les deux. C'est ce qui me semble très important. Il ne faut surtout pas séparer. Parce que séparer, ce serait justement se mettre dans une position qui fait qu'à partir de là, on ne peut plus découvrir ce qu'il y a de profond dans la morale. Ce qui est objectif. On ne peut plus découvrir la finalité. La finalité se rattache à la nature. Tandis que le problème de la personne, c'est le problème du choix personnel. C'est très important. Vous voyez, c'est le lien entre le conditionnement dans lequel on est, le pose, le conditionnement, le comment, relié à la finalité. Et c'est peut-être ça le propre du problème de la personne. C'est relier notre conditionnement, qui est toujours subjectif. Mon conditionnement n'est pas le vôtre, et le vôtre n'est pas le mien. Grâce à Dieu. Même si on était nés la même année, notre conditionnement, c'est pas le même. Et comme on n'est pas nés dans la même année, il y a tout un abîme de conditionnement. Ce qui est la plus beau goût. Entre deux. Alors le conditionnement est très très différent. C'est vrai, le conditionnement apprend une guerre après une guerre. Mais le conditionnement, ça change tout le temps. Il y a quelque chose qui demeure. C'est le problème de la finalité. Et s'il n'y a pas découverte de la finalité, il n'y a pas de morale. C'est une psychologie qui veut être totale, qui veut aller jusqu'au bout. Mais s'il n'y a pas le problème de la découverte de ce que représente le bonheur profond de l'homme, vous voyez, là, on touche le problème, je crois, le plus important de notre monde aujourd'hui. Et on verra, c'est pour ça qu'il faut être attentif, on verra les réactions violentes. Elles commencent et elles seront violentes. Des réactions de théologiens, de chrétiens engagés, par rapport à l'enseignement actuel de l'Église. Sur la fécondation artificielle, sur tous les problèmes de la procréation. Je crois qu'il faut être très attentif à ça. Il ne faut pas juger trop vite. On n'a pas jugé, on a cherché. On a accepté l'enseignement de l'Église. Si on ne comprend pas, qu'on demande conseil, qu'on essaie de s'éclairer, c'est bien évident. L'enseignement de l'Église n'est pas facile à recevoir. Parce qu'on doit le recevoir dans la foi. Alors, on veut bien accepter un credo qui est lointain, mais accepter un enseignement qui est immédiat et qui nous oblige d'être chrétiens dans notre style de vie, dans notre manière d'être, alors c'est très différent. Au fond, on n'aime pas beaucoup que le christianisme vienne transformer le conditionnement de notre vie. On accepte qu'il soit lointain. C'est les chrétiens lointains, de la perspective lointaine. Et quand il s'agit d'être chrétien jusque dans notre manière d'être, dans nos mœurs, c'est beaucoup plus difficile. Et la foi, elle est spéculative, elle est pratique. Et l'enseignement de l'Église regarde ce point de vue pratique. Alors il faut, je crois, aujourd'hui, c'est à devoir de comprendre que cet enseignement de l'Église présuppose une vision de l'homme et donc de la personne humaine et de la personne humaine assumant le mystère de l'âme spirituelle. Parce que je crois qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions soulevées aujourd'hui uniquement par le personnalisme, uniquement en regardant une philosophie de la personne. La recherche que nous faisons, c'est justement pour essayer de comprendre personne implique nécessairement le problème de l'âme et de l'âme immortelle. Qu'on ne peut pas couper les deux. On doit distinguer et pas couper, pas séparer. Je dis ça parce que on est en présence, hein, c'est la dernière actualité pour le chrétien d'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est une actualité qui va secouer beaucoup. Donc, à la fois, on a une responsabilité dans la prière et on a une responsabilité du côté de la délivrance. C'est-à-dire de réfléchir, de penser à ce que représente cette position de l'Église. Et au moment de la pilule, il y a eu les mêmes oppositions, les mêmes difficultés, il fallait penser. Aujourd'hui, c'est peut-être encore plus aigu. C'est autre chose. Mais les deux, ça se tient. Parce que c'est toujours la question de la nature qui est en cause. Et la nature donc de l'âme spirituelle. Alors je vous disais que pour essayer de bien comprendre le problème de la personne au plan philosophique, le comment de la réalité que nous expérimentons et de la réalité la plus parfaite que vous expérimentez. Vous avez la chance d'avoir toujours ce laboratoire avec vous. C'est votre propre personne. Et vous l'expérimentez tous les jours. Si vous êtes un peu lucide, tous les jours, vous expérimentez ce que c'est que votre personne. Puis vous expérimentez aussi la personne de votre voisin. Des exigences de l'amour humain les oppositions, tout est mêlé. Alors, il faut commencer par enlever les confusions et montrer les sophismes qui sont appliqués dedans. Alors, nous allons donc regarder, si vous voulez, le problème de la personne au niveau éthique religieuse. Je dis ça, c'est parce que le problème de la personne étant un problème ultime, puisque c'est le pos dernier, c'est le comment, l'étant dans toute sa force, celui que j'expérimente de la façon la plus parfaite. Je regarde donc au niveau religieux. Qu'est-ce que c'est que la personne au niveau éthique religieuse? Je dis que c'est tout de suite le problème de la contemplation. C'est dans la contemplation que l'homme découvre qu'il est une personne. La contemplation est le fruit. Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans de philosophie, il y a quelque chose qui pousse. Il y a l'habitus de sagesse. L'habitus de sagesse philosophique. On devient ce que les Grecs appelaient un sage. Il faut du temps, il faut du temps. Parce que d'une certaine manière, c'est toute notre vie. Je ne peux jamais dire, j'en ai assez de cette sagesse philosophique, maintenant je m'arrête. Je peux toujours aller plus loin. Et chaque fois que je vais plus loin, mon regard est plus profond. C'est ça qui est très étonnant. On voit très bien qu'on pourrait s'arrêter à 1000 mètres, 2000, 3000, si vous pouvez mesurer. Il y a le Mont Blanc et l'Himalaya. Alors, ne faites pas trop d'applications, mais il y a le Mont Blanc et l'Himalaya. Ce sont des sommets différents. Mais ce qui est sûr, c'est que l'habitus de sagesse atteint le sommet. La contemplation, autant que nous le pouvons ici sur Terre, du Dieu créateur. Et dans la lumière de cette contemplation, je porte un jugement de sagesse sur ce que je suis. Et dans la lumière de cette contemplation, je découvre ce qu'est la personne humaine. Essayer de découvrir ce qu'est la personne humaine au niveau contemplatif. Même si c'est rare, ça n'a pas d'importance. Pour le philosophe, il n'est pas dans le suffrage universel. La vérité ne dépend pas du suffrage universel. On verra ensuite qu'il y a un autre type de personne humaine dans l'amitié. On se demandera ensuite, toujours, une perspective éthique, s'il y a une personne humaine au niveau artistique. Oui, je vois tout de suite qu'il y a des modalités différentes de la personne. Ce qui est normal, si la personne est un boss, il y a différentes façons de se nouer. Bon, chacun d'entre nous, on s'est noué différemment. Puisque à partir de 25 ans, on est noué. À partir de 20 ans, ça commence. Encore défaire les nœuds. Tandis qu'à partir de 45 ans, on ne peut plus défaire les nœuds. C'est impossible. Si vous voulez vous dénouer, allez chez un psychanalyste. Alors, je crains beaucoup qu'après, vous ne puissiez plus vous renouer. Vous serez uniquement dénoué. Mais à 20 ans, ça peut encore se faire. Les nœuds ne sont pas très forts. Alors, c'est d'autant plus important de bien choisir l'orientation. Parce qu'on se noue en fonction de l'orientation qu'on a prise. Une orientation plus ou moins consciente. Quelquefois, on s'est laissé téléguider. On a suivi un ami. On a suivi un ami. Et on a cru qu'on pouvait le le suivre. Or, il avait de plus grands pattes que nous. Nous avions des plus petits pas. Au bout d'un certain temps, on a été essoufflés. On a dit, continue, moi je m'arrête. Ça peut très bien se faire, ça. C'est très beau de suivre un ami. On avait simplement oublié qu'il avait des plus grands pas. Alors, biologiquement, ça s'aperçoit tout de suite. Mais spirituellement, on met du temps avant s'en apercevoir.
Adoration.
relation, c'est l'aspect affectif. Puisque c'est le premier amour. Et le contemplatif doit au contraire respecter cette complexité, puisqu'il ne peut avancer que dans la mesure où il respecte cette complexité. C'est là, vous voyez, la contemplation philosophique présuppose toute l'analyse de la complexité du vivant supérieur qui est l'homme. Je ne peux pas mener cette contemplation sans respecter cette complexité. Cette complexité, c'est mon comment. C'est ma manière d'exister. Tandis que la contemplation, c'est la finalité. Je n'oppose pas les deux. Mais si j'ai une prudence suffisamment dépendante de la sagesse, j'essaie, dans la mesure du moyen, de diminuer le plus possible.